tous, bienvenue sur les ondes positives de CFM Radio. C'est parti comme chaque semaine pour une petite heure d'échange et de voyage autour d'un message positif, en immersion dans la vie d'un invité qui a décidé de voir la vie en couleur, de voir la vie comme une succession d'expériences à vivre où l'on peut voir partout du positif. Cette semaine, j'accueille Claire Noukoudou. Bonjour Claire.
Bonjour Dorothée.
Alors Claire, tu es infirmière libérale et thérapeute à Montauban. Tu es mariée, mère de famille, très très occupée et très très positive.
C'est ça, très très occupée et positive le plus possible.
Alors tu viens nous partager à ce titre tes messages positifs. On va voir que tu en as emmené tout plein aujourd'hui. Et le premier est le suivant. Cherche qui tu es. Alors bien évidemment, quand je pense à chercher qui l'on est, bien je me dis que s'il faut chercher, ça veut dire qu'on ne sait pas d'emblée qui on est.
Non. Avec le recul, j'ai l'impression que c'est un long parcours. Mmh. Pendant longtemps, je pensais être la seule à vivre cette problématique. De pas être à ma place ou de devoir toujours faire attention à qui je suis, à ce que je dis pour faire partie d'un groupe.
Ouais.
La notion de groupe, je l'ai longtemps cherchée. Pour me rassurer, pour trouver mon identité. Et le temps passant, au gré des rencontres, au gré des événements, je me suis rendu compte que ce que j'étais au fond de moi avait une raison d'être et que j'étais loin d'être la seule. Donc, petit à petit, il a fallu du temps pour que je m'autorise à être moi-même dans une conversation et à m'autoriser, voilà, à avoir envie de dire ce que je ressentais, de partager mes lectures, de partager mes centres d'intérêt qui sont des fois un petit peu en décalage avec ma vie personnelle et ma vie professionnelle.
Alors on se perd au fil du temps, au fil de la vie, parce qu'on a envie de suivre les autres.
Et parce que on confond souvent ce qu'on est et ce qu'on fait. C'est-à-dire que très jeune, on sait ce qu'on aime, mais on est dans notre scolarité, on a le temps d'écouter de la musique, d'être passionné par quelque chose. Et j'ai l'impression que dès que notre vie professionnelle commence, dès que notre école commence, dès que notre statut se met en place, on a une étiquette, on a moins de temps, on se laisse moins le temps, on est pris par notre besoin de reconnaissance, notre besoin de bien y arriver.
Oui.
Et on oublie.
D'accord, donc il y a ce statut dans la société, cette étiquette qui nous colle à la peau. Et puis il y a aussi les croyances que l'on a sur soi qui nous empêchent d'être qui l'on est.
Oui, alors ces croyances, au décours d'une conversation avec un ami, j'ai compris que ces croyances que je prenais pour telles étaient souvent ce qui m'était renvoyé par les autres parce que je leur semblais différente. Et donc à force d'entendre, tiens toi, t'es un peu baba cool ou toi, je me disais bon... Ben, peut-être la vérité, elle n'est pas là. C'était parce qu'on me renvoyait cette différence que j'ai voulu avoir la même étiquette que les autres.
Ouais. Voilà. Et c'est parfois ce que l'on fait en tant que parent avec nos enfants. Toi, tu es toi, t'es sportif, toi, t'es rapide, toi, t'es lent, etc. On a tendance à coller des étiquettes.
Maintenant que j'ai ressenti par moi-même ce que c'était d'être enfin soi-même et de ne pas être totalement toujours dans le fil du temps, j'essaye quand je peux de valoriser les émotions de mes enfants, ce qui n'est pas toujours évident.
Oui, c'est le métier de parent, c'est pas le plus simple, on va
même
dire.
Même quand on est averti.
Alors, quand on cherche qui l'on est, eh bien, on finit par trouver, hein, on trouve le bout de la pelote et puis on démêle petit à petit le fil. On va parler de ton exemple personnel, Claire. Tu es donc infirmière libérale depuis quelques années, comme je l'ai dit en préambule. Et tu vivais ce statut d'infirmière comme un carcan.
Oui, l'école d'infirmière a été peut-être le premier moment où on nous a appris beaucoup de choses, mais aussi on nous a appris à douter de notre cerveau, de notre pensée, de notre ressenti. Il fallait apprendre des surveillances, des protocoles, des choses fantastique, mais on mettait de côté nos émotions.
Oui.
Et je suis partie une première fois en libéral et suite à mon aménagement à Montauban, je suis revenue en secteur hospitalier. Et une fois que j'ai eu goûté à l'autonomie de l'infirmière libérale, à la responsabilité qu'on a à domicile, souvent seule, en lien avec des professionnels, je suis revenue dans un système dont j'espérais beaucoup en termes d'apprentissage. Et en fait, j'étais plus personne. En termes d'ego, ça a été difficile parce qu'on ne m'entendait plus.
Oui.
Quand j'avais quelque chose à dire sur mon travail de nuit, sur mes patients, c'était pas retranscrit, tant que c'était pas du technique, tant que c'était pas validé par un paramètre vital.
Mmh. Donc ça veut dire que en tant qu'infirmière, tu te sentais être dans la masse. On te demande implicitement d'être dans la masse.
Je l'ai ressenti comme ça. J'étais une petite main, celle qui devait faire ce qui était prescrit, celle qui devait retranscrire, celle qui devait faire attention de pas faire de bêtises.
Oui.
Mais je n'étais pas entendue dans ce que j'avais à partager.
D'accord. Donc tu subissais ce rôle d'infirmière, si je comprends bien.
Je le subissais jusqu'au jour où j'ai lâché prise et au sein d'un service où j'ai terminé mon temps de travail sur l'hôpital de Montauban, où là j'étais vraiment dans le partage avec les aides-soignantes, avec tous les corps de métier, et là j'étais moi-même. Les choses que j'ai voulu partager ont été entendues par ceux qui ont pu l'entendre, et j'étais un vrai caméléon.
Alors comment tu as fait pour, dans ce contexte, comme tu le dis toi-même, c'est un peu un carcan, hein, où on nous demande de pas bouger. Comment tu as fait pour chercher qui tu étais?
C'est parce que je me suis confrontée, une fois que j'ai eu senti cette liberté que j'avais en dehors en étant libérale, quand je suis revenue, ça m'a choquée en fait. C'était comme, c'est un peu comme la fable de la grenouille qu'on met dans l'eau chaude d'un coup. Là, elle se débat, elle dit non, c'est pas possible. Quand j'ai passé plus d'années à l'hôpital, j'étais dans cette eau qu'on chauffait petit à petit. Petit à petit, on acceptait tout. Là, j'ai vraiment une prise de conscience.
D'accord. Donc, ça veut dire que pour trouver qui l'on est, il faut aussi sortir de sa zone de confort pour voir que ça peut être complètement différent ailleurs.
Effectivement.
Ouais. Et puis revenir de là où on était et puis s'apercevoir que finalement on a accepté des choses qui peuvent ne pas être acceptables pour l'individu qu'on est.
En tout cas, pour moi, ça l'était pas. Partir en libéral n'était pas une prise de risque. J'étais vraiment curieuse et peut-être naïve et très impatiente. Donc j'ai su m'adapter grâce à des collègues qui m'ont aidée. Et c'est vrai que pour moi, sortir de ma zone de confort, c'était revenir à l'hôpital et accepter à nouveau pour apprendre.
D'accord.
D'autres personnes, et je les admire, sont capables d'accepter ces conditions de travail parce que ça leur convient et qu'elles arrivent à en faire quelque chose.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord. Alors c'est ainsi que tu es arrivée à te déployer. Hein. Mm-hmm. Tu as compris notamment à ce moment-là que l'acte infirmier n'est pas le seul à prendre en compte dans le soin global, qu'il y a autre chose à côté.
Alors dans l'acte infirmier, il y a les émotions du patient, il y a son ressenti, il y a son envie d'être lui-même. Il y a des mots très techniques que j'ai oubliés, mais tout ça, ça existe. Mm-hmm. C'est pas souvent utilisé, c'est pas souvent valorisé. Et même en libéral, dans notre contrat avec la sécurité sociale, ça n'est pas du tout coté, ça n'est pas reconnu.
D'accord.
Mais nous le faisons. Mm-hmm. Parce que nous rentrons chez les patients et on a tous les outils, tous les appels pour nous faire comprendre qui est ce patient.
Mm-hmm. Ça existe, mais ce n'est pas suffisamment valorisé à ton goût.
On l'est tous. Ouais. Et c'est le bonheur qu'on a en libéral. Par contre, ça n'est pas reconnu.
D'accord. Alors, on va écouter tout de suite le premier morceau que tu as choisi et que tu nous partages. On en parle juste après. C'est Lara Fabian qui chante Aznavour, comme ils disent.
J'habite seule avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue canarie et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave et j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en rue intégrale après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. matin. On sort manger entre copains de tous les sexes, dans un quelconque bar, tabac et là, on s'en donne à cœur joie. Et sans complexe, on déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, rouillé d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé. Marcher ondule, Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, mais se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les latsis, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homo. Solitude, j'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche, mais je ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie, si dérisoires, à ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire. Avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps. Oh, l'idée femme, il m'a le droit, en vérité, de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui et c'est le responsable si je suis un homme, comme il dit.
Comme ils disent, chantée par Lara Fabian, c'est une chanson choisie par Claire Noudoukou, mon invitée cette semaine au micro d'Ondes Positives. Alors Claire, qu'est-ce qu'elle t'évoque cette chanson ?
Elle m'évoque beaucoup de choses, depuis bien longtemps. Lara Fabian est la première artiste que j'ai entendue quand j'étais au lycée qui parlait de la différence.
Mm-hmm.
Donc elle me parlait déjà. Et c'est vrai que celle-ci, surtout dans sa version elle, je la vis dans trois étapes. Le constat, enfin d'abord le jugement de la part des autres. La troisième fois dans son refrain, on sent un constat sans jugement. Et la troisième fois, il y a de la fierté.
Mmh.
Voilà, il y a quoi que vous en pensiez, je suis. Et j'aime beaucoup cette version-là.
D'accord, donc c'est l'histoire de ton évolution ?
Oui.
Professionnelle, en tout cas ?
Oui.
Ouais. Donc, un métier que tu subis ou un statut social que tu subis au départ et puis qui finalement devient une fierté ?
Oui, c'est ça.
Alors, maintenant, tu es sortie du carcan, on va dire, de l'infirmière, tu es devenue toi-même. C'est parce que, à côté de ce métier-là, tu en exerces un autre aussi ?
Oui, j'ai beaucoup lu, j'ai aimé apprendre, et à défaut, au début, de le voir comme une reconversion, je me refusais de le voir comme une reconversion, c'est devenu un état d'esprit.
D'accord.
Un mode de vie, et j'ai la chance de pouvoir le partager au gré de certains moments que je privilégie avec en consultation.
Mmh, donc tu es infirmière et thérapeute.
Oui.
C'est ta façon d'affirmer ta différence. Tu nous parlais de différence avec Lara Fabian.
Ça l'a été. Au début, je voyais ça comme une opposition même avec mon métier d'infirmière.
Ah ouais.
Parce que je voyais mon métier d'infirmière comme régentée par des règles, par un cadre. Mm-hmm. Et en fait, c'était ma façon de vivre qui me faisait voir ce métier d'infirmière de cette façon-là. Mm-hmm. C'est maintenant, je le vois différemment. Et au contraire, je me refuse à quitter mon métier d'infirmière parce que j'ai quelque chose à y faire. Et en étant moi-même, tout mm-hmm. simplement.
D'accord. Et il y a de plus en plus d'infirmières comme toi qui évoluent dans la façon de voir leur métier et qui s'autorisent aussi à être dans le soin et l'accompagnement de façon différente.
Oui, c'est surtout ça, s'autoriser. Il y a peut-être une génération ou deux, on ne pouvait pas sortir des chemins battus.
Oui.
Là, maintenant, on a tous une envie. Il y en a qui vont faire de l'hypnose, de la sophrologie. On a tous envie d'être nous-mêmes en complémentarité avec notre métier initial.
Très bien. Alors, tu me disais en préparant l'émission que tu es maintenant fière de toi, de ton parcours, de ta différence, de ce que tu apportes en plus dans le monde du médical. Et tu es également fière d'une forme de solitude que tu vivais comme pesante avant.
Oui, ben, je voulais appartenir à un groupe pour me sentir en sécurité. J'avais envie d'être comme les autres. Donc, la solitude, au début, je l'ai subie parce qu'intérieurement, quand on se sent pas comme les autres, c'est une bataille constante. Mmh. Petit à petit, il a fallu passer par là pour attendre de rencontrer les bonnes personnes et de trouver ma voie. Ça aurait été facile, sinon, de faire plein d'autres choses. Mais finalement, la solution, là, je l'ai trouvée là, maintenant. Ce qui me parle le plus, je pense que je l'aurais pas trouvée si ça avait été beaucoup plus facile avant.
Oui, ça veut dire qu'il faut des moments compliqués, il faut des obstacles à franchir pour pouvoir savourer.
Oui, bah c'est presque une maturation personnelle et je suis loin de l'avoir terminée, mais avec le recul, j'ai trouvé du sens à chacune de ces difficultés.
D'accord. Alors parlons maintenant du groupe, tu l'as évoqué, hein, le groupe dans lequel on peut se sentir mal ou bien, le partage qui peut se faire à l'intérieur du groupe. On en arrive à parler de ton deuxième message positif, partager ce que vous vivez. Alors en quoi c'est si important pour toi de partager ce que l'on vit?
Alors, je suis quelqu'un qui va beaucoup vers l'extérieur. Donc, c'est presque vital pour moi de partager. J'ai du mal à garder les choses pour moi. Donc, ça peut être utilisé à bon escient, dans le sens où, en plaisantant, sur le ton, en étant un peu à contre-pied, j'aime bien raconter les anecdotes de ma vie, surtout de maman. Mmh. Aussi d'infirmière. Il y en a qui me suivent un peu le week-end quand je râle dans ma voiture. Mais je prenais ça de façon très égoïste. J'en avais besoin et je me suis rendu compte que ça parlait à pas mal de gens.
Donc tu partageais sur les réseaux sociaux, c'est
oui,
ça?
C'est
des,
ça.
Des bouts de vie, des anecdotes. Toi c'est en ça. Tant que maman, toi en tant qu'infirmière.
Oui.
D'accord.
Et je me suis rendu compte que ça parlait à beaucoup de mamans. Mmh. À beaucoup de mamans que j'idéalisais, comme j'idéalise beaucoup de gens, en me disant que j'étais sûrement la seule à être dans le jugement, à être fatiguée, à en avoir assez des fois, ou à trouver que c'est insupportable d'avoir 3 sorties scolaires dans la semaine avec des croque-monsieur à faire à 22h le soir alors que j'ai fait mes 12 heures de tournée. Et je pensais que pour les autres, c'était facile. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'en partageant, j'avais des retours. Et j'ai eu l'occasion de partager un petit texte que j'ai écrit assez fatigué et tout d'un coup assez ému du coup en voyant mon fils aîné que j'ai pas vraiment vu grandir. Et ce texte-là est sorti tout seul, j'ai eu envie de le partager parce que souvent en tant que maman, je suis pas papa donc je peux pas parler à la place des papas, mais en tant que maman on se culpabilise beaucoup du peu de temps qu'on a, des choses qui sont pas assez bien faites, des choses qu'on n'a pas bien dites, des choses qu'on n'a pas pu entendre de la part de nos enfants. Et j'aime bien partager ça parce que je sais que celles qui le ressentent et qui n'osent pas le parler, qui n'ont pas d'espace pour l'exprimer, pourront peut-être attraper un petit peu d'espoir en se disant que c'est partout pareil et qu'elles peuvent être déjà très heureuses de ce qu'elles arrivent à faire.
Alors c'est intéressant ça parce qu'effectivement on a tous tendance à mettre l'autre sur un piédestal en disant l'autre il y arrive et puis en plus c'est facile alors que moi je suis là dans mon coin en train de mascagner comme on dirait dans le sud-ouest.
Oui.
En fait, on réalise pas que les autres qui sont à côté, pour qui paraît tout facile, c'est pareil, hein, ils ont aussi des difficultés, enfin pas forcément les mêmes que les nôtres, mais ils ont également leurs difficultés.
Oui, et la société, la politesse fait qu'on n'en parle pas. Donc ça ne se montre pas. Maintenant, ça m'amuse d'aller en jogging à l'école, pas trop bien coiffée, juste pour voir si j'arrive à tenir un certain temps. Juste pour voir si je peux aussi moi-même sortir, même officiellement, de ce qu'on est censé montrer.
Oui, c'est-à-dire montrer nos faiblesses, hein.
Oui.
Nous montrer dans toutes nos imperfections?
Oui, ça m'amuse un peu. Je tiens pas longtemps. Il faut pas que je croise mon rétroviseur, mais je me dis que après tout, c'est ça aussi lâcher prise, ne pas renvoyer à quelqu'un une image parfaite alors que la vie, elle est pas si facile que ça.
Alors tu disais que ça vient de la société, ça veut dire que aussi on nous éduque dès petits à être en compétition, à faire mieux que l'autre, à montrer le meilleur de soi. Et c'est quand même aussi intéressant de montrer le meilleur de soi.
Oui, mais montrer le meilleur de soi aux dépens de l'autre, c'est pas bon. Je viens de me garer en ville et j'ai croisé une ribambelle d'enfants qui partaient avec leur maîtresse main dans la main. Et il y a deux enfants qui ont doublé deux autres enfants. Et la maîtresse a dit « c'est normal, tu marches pas assez vite ». Et en l'espace de trois phrases, j'ai entendu « tu marches pas assez vite, c'est pas suffisant, tu n'es pas assez concentré ». Et là, je me suis dit « mon Dieu, je serais sûrement pas une très bonne maîtresse à l'âge que j'ai actuellement, mais j'ai entendu que de la négation et de la compétition, en trois phrases ». Et en fait, on entend ça tout le temps. Donc, on est instinctivement mis dans cette situation de faire mieux que l'autre. On recherche le regard de ses parents, on veut réussir. Et nos parents ont été éduqués comme ça, donc ils nous apprennent comme ça. Mais il est peut-être temps de voir les choses autrement.
D'accord. Alors, tu nous disais que maintenant, tu t'entraînes à partager ce que tu vis en tant que maman.
Oui.
Tu partages aussi ce que tu vis en tant que professionnelle, en tant qu'infirmière notamment. Mmh. Est-ce que, bon, je connais déjà ta réponse, mais est-ce que ça aide au sein d'une équipe, dans un groupe de collègues, de partager ce que l'on vit?
Oui, surtout si on le partage sans attendre un jugement positif ou négatif de l'autre. Ça va ouvrir la parole, ça va peut-être libérer certaines personnes, en public ou pas, mais dans une équipe, ça permet à un autre, à un moment, de pouvoir discuter de quelque chose qui lui est difficile. Voilà, ça montre que c'est possible. Ça permet une meilleure cohésion et aussi, après, quel que soit notre diplôme, on se réfère toujours à la hiérarchie, à l'autre, il est plus diplômé que moi, donc on se montre pas en faiblesse dans un groupe. Alors qu'une fois que chacun a partagé un peu ce qu'il ressent, ça permet d'être tous sur un pied d'égalité. Et là, dans ces cas-là, je pense beaucoup plus en ce moment au mot compétence.
Ouais.
Le mot compétence me parle parce qu'on a besoin d'avoir plusieurs compétences pour arriver vers un objectif. Du coup, on peut pas être en compétition.
D'accord. Donc, il faut plus parler de compétences.
J'aime bien ce mot. Je viens de m'en servir ce matin et il répond à beaucoup de choses.
On peut pas tous avoir les mêmes compétences.
Non, c'est pas possible.
Alors, on a parlé du milieu professionnel. On va parler aussi de l'univers du couple. Partager ce que l'on vit dans un couple.
Oui. Alors là encore, tout à l'heure, je suis arrivée sur une très jolie phrase qui dit « aimer, c'est ne pas juger l'autre ». Et c'est vrai que dans un couple, déjà, quand un couple se crée, on se rencontre sur un bagage que l'on porte, une histoire que l'on porte. On trouve chez l'autre, surtout, à mon avis, une façon de se sécuriser soi-même. Donc, beaucoup de qualités qui font qu'on se sent bien. Mais quand l'autre, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ce qu'on traverse, ça peut être le mariage, ça peut être les enfants, une difficulté professionnelle, ou même la volonté tout simplement de vivre quelque chose de sympa, de s'intéresser à des lectures. Quand l'autre a envie d'évoluer, ce qui n'est pas péjoratif pour celui qui ne s'est pas posé la question, ça crée des tensions. Ça crée des tensions parce que tout d'un coup, cet autre qui nous sécurisait est en train de changer.
Oui.
Et le contrat qu'on avait mis en commun pour être heureux toute sa vie est en train de nous filer entre les doigts. Donc c'est là qu'on a besoin d'être accompagné, d'avoir un peu de maturité et que quand on a envie d'évoluer ou quand on est curieux de plein de choses, il faut savoir prendre en compte ce qu'on a construit avant.
Oui.
Et autant aider celui qui est toujours avec nous, qui a toujours été là à entendre ce qu'on a envie de vivre et en même temps ne pas le vivre en opposition. Ne pas dire avant c'était rien du tout et maintenant c'est génial. C'est la même chose que j'ai vécu au niveau professionnel. C'est une maturité, mais il faut prendre en compte les autres qui y a autour de nous qui ont peut-être des demandes totalement différentes.
En préparant l'émission, tu m'as dit que tu as connu la sensation de te sentir toi-même pour la première fois quand tu as rencontré ton mari.
Oui, c'est la première fois que j'ai touché du doigt. Je me suis rendu compte qu'en parlant, j'étais moi-même. Je faisais plus d'efforts, j'avais plus de filtres.
Oui.
J'avais plus peur. Et ça m'est venu très vite, les premiers, deuxième, troisième jours. Et à un moment, il y a ma petite voix, mon mental qui me disait « Mais Claire, qu'est-ce que t'es en train de dire ? C'est affreux, enfin, t'es en train de lui dire tout ce que tu penses. Et il va se moquer de toi, c'est pas possible. » Et ben non, 13 ans après, il se moque toujours pas de moi.
Ouais.
Donc c'est là que j'ai pu me sécuriser. Parce qu'au début, Marco, c'était ma sécurité, il est toujours là. Quoi que je pense, il ne confond pas mon émotion et ce que je suis. Je peux être fatiguée, énervée, déprimée, feignante. Je peux être tout, mais il ne confond pas mon émotion du moment avec ce que je suis. Mm-hmm. Et le fait qu'il l'ait différencié m'a donné ce sentiment de sécurité.
D'accord. Alors toi qui cherches à être qui tu es, à trouver la personne que tu es, tu nous disais que le chemin est pas encore n'est pas encore terminé. Et
non.
Puis pour personne de toute façon, on est tous tout le temps à chercher qui l'on est, même lorsque on arrive en fin de vie. Comment on fait au quotidien lorsque on cherche qui on est pour garder les fondations, les constructions qui sont faites dans le couple? On peut avoir envie de complètement diverger.
Oui. Alors là, le mérite revient à mon mari. Parce qu'il me voit souvent dans mes découvertes, dans mes euphories, dans mes envies de partager. Et j'ai de la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui est capable de me voir heureuse de découvrir quelque chose ou de le partager sans se sentir en danger.
Mmh.
Donc, il m'a beaucoup appris l'écoute et j'ai appris à changer ma façon de formuler les choses parce que j'étais souvent dans l'opposition. Je connaissais que ça comme mode de communication. Et là, c'est grâce à lui que j'arrive à me dire maintenant, tiens, bon, tous ces événements qui m'intéressent, j'irai peut-être à un parce que j'ai pas besoin de tout savoir et j'ai aussi ma maison qui m'attend.
Mmh.
Là, c'est mon métier d'infirmière qui me montre à quel point j'aimerais être plus chez moi. Donc, si je me libère, c'est pas pour aller faire encore plus de choses du côté épanouissant, c'est que ma maison, j'en ai besoin aussi.
Mmh.
Ma maison, mon mari, mes enfants, et ces choses essentielles, on les voit que quand on les a plus.
Ouais.
Donc, voilà.
C'est un peu le risque quand on commence à goûter le plaisir de trouver qui l'on est, de chercher, d'être curieux, d'oser, de revendiquer sa différence. Le risque, c'est aussi un peu de se perdre parce que tout est intéressant.
C'est fantastique au début. Et puis tout d'un coup, on est entouré de plein de gens qui pensent comme nous ou qui s'autorisent à penser. Donc il y a des conversations passionnantes, il y a 10 000 choses à partager, c'est euphorisant. Il y a un risque dedans, il y a un risque, mais très très tôt, lors de ma première formation, quand j'ai fait mon premier cours de médecine chinoise, il y a très longtemps que Marco m'a offert parce que j'avais pas beaucoup de sous, on en a parlé très vite, il me disait « mais là-bas, tu vas croiser des gens qui pensent comme toi, qu'est-ce que je suis pour toi ?» Et donc, c'est un exercice, c'est pas un exercice quotidien, c'est pas du tout quelque chose auquel je me force, mais régulièrement, je me ramène à ce que j'ai chez moi et qui est, semble tout, quand même beaucoup plus important.
Mmh.
Le reste, c'est de l'épanouissement et je suis pas un an, à 5 ans, à 10 ans près.
D'accord. Et ton mari, est-ce qu'il peut, lui, avoir le loisir de chercher qui il est?
Il y a quelques années, je me suis sentie obligée presque de le pousser à trouver qui il était parce que je trouvais que j'avais passé beaucoup de temps à faire, à lire, à partir en formation et je pensais que c'était à ses dépens.
Mmh.
Et je voulais pas qu'à un moment on me le reproche. Donc c'était pour préserver mon sentiment de sécurité. C'était très égocentré au début. Mais petit à petit, quand j'ai trouvé ma voie et que j'ai su qu'il y avait plus d'urgence, j'ai pu aussi me dire, bah tiens, profite quoi, vas-y si t'as envie de passer du temps avec des amis ou d'aller assister à des réunions, d'aller faire des choses qui te parlent. J'ai besoin au moins de sentir qu'il s'autorise à faire des choses.
Mmh.
Pour que je sois pas la seule qui fait les choses à ses dépens. Je pouvais pas accepter cette idée.
Et c'est ce qui permet peut-être justement de ne pas diverger à un moment.
Oui, parce que du coup, quand il me raconte quelque chose qui le passionne, je suis capable de l'entendre. J'essaye de mon mieux, de la même façon qu'il l'a fait pour moi quand j'ai ouvert la porte.
Allez, on invite Thierry Cham dans la conversation qui nous emmène sur un rythme de zouk sur l'océan. C'est le titre du morceau, l'océan.
J'invoquerai tous les vents pour te souffler mes sentiments. Défierai tous les géants, te prouver comme je suis grand. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie, vouloir t'aimer pour la vie. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet.
mettrai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Hypnotisé par ta voix, par ton odeur et ton aura, je ferai tout ce qu'il y aura pour te sentir près de moi. Ce peu restant que nos vies, ce simple passage qu'est la vie, je veux t'aimer aujourd'hui. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Envahi par une telle obsession, je me sens ivre de toi, oh bébé. Mais je ne sais pour quelle raison je suis tombé fou de toi. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai.
Cham chante l'océan, c'est une chanson choisie par Claire Nodoukou au micro d'Ondes Positives. Alors tu m'as dit que cette musique pour toi, elle représente le moment de bascule.
Oui, c'est la musique qu'on a utilisée le soir de notre mariage. Et là on avait tout réuni, on avait tout fait nous-mêmes. Donc la solitude, on l'a vécue à deux pour préparer notre mariage. C'est le sentiment qu'on a eu, mais on était fiers de nous. Et en même temps, voilà, c'était un nouveau départ.
Mmh. Donc c'est le moment de bascule entre du mal-être et puis du bien-être. C'est la bascule entre quoi et quoi ?
C'est la bascule entre la solitude, l'impression d'être différente, l'impression d'être jamais à ma place. Mmh. Et là, ça y est, j'y étais.
Le fait d'assumer ce que l'on est.
Oui, et puis bon, c'est vrai qu'à deux, on est plus fort et on était en accord tous les deux. Donc à partir de là, j'étais libre, quoi.
Uh-huh. D'accord. Alors on arrive à ton troisième message positif. Justement, c'est assumer, oser être soi. On en a déjà un petit peu parlé. Alors on a parlé de chercher qui l'on est, de partager ce que l'on vit. On parle maintenant d'oser être soi. Finalement, tout ça, c'est l'acceptation de qui l'on est.
Oui, j'ai l'impression que cette acceptation peut être fluctuante. Il y a des jours, on accepte à fond ce qu'on est. Il y a des jours, le doute s'invite quand même de temps en temps.
Ouf, tu nous rassures.
Oui, non. Et ces jours de doute, je me raccroche à ma sensation de la veille où tout d'un coup, j'avais plus aucune limite. Donc, c'est un apprentissage régulier. Il faut savoir le retrouver.
D'accord. Donc, il y a des jours, Claire, dans sa voiture, dans sa tournée, elle se sent prête pour l'impossible. Et puis, il y a d'autres jours, elle déprime un peu.
Il y a d'autres jours, je mettrai la marche arrière et je retournerai sous ma couette, oui.
Alors, oser être soi, c'est une façon de se sentir acteur de sa vie, hein, être au centre, on va dire, hein, de la roue de sa vie. Et c'est l'importance de dire « je ».
Oui, je ne suis pas. Ah, on commence par la négation, ça commence bien. Non, j'aimerais autre chose.
Oui.
Je me prends à rêver d'eux et je me rends compte qu'en formulant les choses, ça se présente petit à petit.
En quoi c'est important de dire « je » et de se sentir comme ça au centre de sa vie ?
C'est important parce que Là, je vais plus parler de ce qu'on porte, de l'histoire qu'on porte. Souvent, c'est de la faute de papa, c'est de la faute de maman, c'est de la faute toujours à quelqu'un. Après, c'est de la faute à la maladie, c'est de la faute à celui qui n'a pas voulu, c'est de la faute à... Il y a un moment, j'ai arrêté, petite fille, de raconter ma vie et de justifier pourquoi en disant c'est la faute de papa, c'est la faute de maman. C'est leur histoire, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec... Ils en ont fait quelque chose de bien, somme toute, parce qu'on a quand même eu une enfance agréable. Mais on a tous la capacité à trouver, à ne voir que le négatif. Mmh. Et en fait, j'ai arrêté de dire c'est la faute à. Et ça m'a presque soulagée, parce que du coup, je pouvais ne plus être en colère contre quelqu'un. C'est pas facile de passer d'un statut en colère contre quelqu'un, d'avoir toujours un os à ronger. C'est de la faute à. C'est très défoulatoire. Hein. Des fois, on en a besoin. Mmh. Dire ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Le sentiment de solitude aide aussi à se dire, bah, de toute façon, maintenant, faut que je prenne ma vie en main, et ce que j'ai envie de faire, je l'aurai que par moi-même. Mmh. Donc, c'est important de dire je.
Et alors, c'est aussi sortir, donc, de la position de victime, tout simplement. À chaque fois que l'on dit c'est la faute à quelque chose, à la situation, à un système, etc., on se positionne en tant que victime.
Oui. Et du coup, ça m'amène à parler d'un concept que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en discutant avec une amie, c'est l'effet miroir. Mmh. S'il se passe quelque chose, c'est quasiment que je l'ai autorisé. C'est que j'ai permis ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas forcément la faute d'eux, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose chez moi qui a permis cet événement. Et en réfléchissant dans ce sens-là, il y a moyen de se dire, d'accord, la prochaine fois, je ferai peut-être autrement et la situation se déroulera d'une autre façon.
Alors ça, c'est un discours qui est très mal perçu, qui est très heurtant de dire qu'on est responsable ou co-responsable de tout ce que l'on vit et même de nos maladies.
Oui, c'est très heurtant, c'est très blessant parce que beaucoup de gens subissent une grosse partie de leur vie. C'est jamais facile et je vous parle de ça en ayant un foyer stable et en étant en bonne santé. Mmh. Le jour où la vie me mettra à l'épreuve, on verra si j'arrive à garder le même discours.
Ouais.
Par contre, quand je reçois des gens que je suis en consultation, ils ne sont pas responsables jusqu'au jour où on leur explique pourquoi. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu portes ? Par où tu as dû passer pour avancer ? Pourquoi tu t'es construite de cette façon-là ? À partir du moment où on leur explique, ils se sentent entendus. Et en se sentant entendus, pour ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes, donc ce qu'ils étaient, entre guillemets, avant d'avoir leur statut dans la société, quand cette personne se sent entendue, elle a un peu plus envie de se dire « d'accord, c'est possible ». Et quand l'espoir revient, on peut dire « je ». Mm-hmm. Tant qu'il n'y a pas d'espoir, le statut, on subit sa vie.
Toi qui es infirmière et thérapeute, selon ta perception personnelle, quel rôle on joue chacun dans nos propres maladies?
Tout simplement, le premier rôle qui me vient à l'esprit, c'est que la pensée a beaucoup d'importance, les émotions ont beaucoup d'influence sur ne serait-ce que le système immunitaire, mmh. sur plusieurs systèmes physiologiques qui existent dans le corps qui font que, en étant positif ou négatif, on sera plus ou moins immunodéprimé ou pas, plus ou moins capable de prendre des forces ou pas. Mmh. Voilà. Le stress, la peur engendrent des phénomènes dans le corps qui tout d'un coup créent une décharge de plein de choses dans le sang, de sucre, d'adrénaline, qui sont très bénéfiques le jour où on est vraiment en danger sur le moment présent. Mais sinon, tout ce qui se passe dans la physiologie du corps est perturbé par ce sucre, par cette adrénaline, par l'acidité qui se développe petit à petit et qui fait que le système immunitaire est déficient, que la respiration est de plus en plus courte et que du coup, elle n'est pas du tout efficace. Mmh. Voilà, notre façon de vivre les choses, notre façon de respirer, de nous alimenter et même de penser pourrait permettre au corps, en tout cas, de rassembler le maximum d'énergie possible pour lutter contre une maladie.
D'accord, donc on est responsable de notre façon de vivre et c'est en ça qu'on a un rôle aussi à jouer dans notre propre guérison.
Voilà, mmh. on peut mettre des chances de son côté pour aller le mieux possible.
D'accord, donc il est là le message d'espoir.
Oui, oui, il est là le message d'espoir. C'est que quoi qu'il nous arrive, en sachant se tourner vers les personnes qui peuvent nous accompagner, vers des amis, vers des lectures, vers des thérapeutes ou vers, au contraire, vers la vie, ça peut être n'importe quoi, en se rebranchant sur le moment présent, en mettant de côté la peur, l'inquiétude et la colère, on peut à nouveau toucher du doigt que On a le droit de respirer, on a le droit d'être heureux, on a le droit, et à partir de ce moment-là, on devient acteur.
Mm-hmm. Et puis surtout, se dire que rien n'est figé, qu'on cherche, on trouve, on évolue, et on se transforme.
Oui, et c'est souvent à l'occasion d'une crise personnelle, que ce soit dans le travail, dans la santé ou ailleurs, que certains en font quelque chose de bon parce qu'ils arrivent à se reconnecter à ce qu'ils ont envie d'être. Mm-hmm. Et une fois qu'ils se le permettent, le corps y suit.
Ouais, il faut pas avoir peur des crises alors.
C'est le message positif. Pour ceux qui sont en plein dedans, c'est le moment. Saisissez votre chance.
Alors justement, tu reviens sur les messages positifs. On a déjà donné 3 grands messages positifs et je voudrais en rajouter un 4e que tu m'as donné. C'est « dites merci ».
Oui, alors je m'y attelle de plus en plus souvent. Merci pour ce repas qu'on m'a préparé. Merci pour un mot qui peut être agréable, mais aussi merci d'avoir eu confiance en moi. Mm-hmm. Je le dis quand même, parce que c'est pas facile de faire confiance à quelqu'un, même si on est sûr de notre approche, même si on est sûr de ce qu'on peut donner aux autres, le merci, je trouve que c'est très agréable à entendre.
En quoi c'est important de dire merci aux autres ?
Mais ça permet de reconnaître le temps que l'autre nous a donné, l'espace qu'il nous a permis de prendre pendant quelques instants. Et le merci, c'est comme le bonheur et le positif, c'est contagieux. Donc mm-hmm. plus on dira merci, plus ça s'entendra et je pense que petit à petit, on pourra avoir un effet encore plus important.
Plus on dit merci et plus on se sent en joie.
Oui, parce que le merci, c'est le merci du moment présent. Mm-hmm. C'est merci pour ce que tu as fait pour moi, merci pour ton attention. Et l'autre reçoit ce merci dans le moment présent. Ouais. Et donc, ça met de bonne humeur automatiquement.
Ouais. C'est la reconnaissance de la satisfaction aussi. Quand on dit merci, c'est qu'à un moment, on se sent satisfait, comblé, même pas forcément totalement comblé, mais un petit peu déjà. C'est une façon aussi de pointer le fait que... On a cette satisfaction.
Et ça me ramène à la difficulté d'entendre le merci, comme la difficulté d'entendre les compliments, parce que là on est dans le vrai. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont contents de certaines choses, mais le merci nous ramène à la réalité de ce qu'on est. Et là, le petit moi intérieur, il est content, mais des fois il s'autorise pas à l'entendre. Donc faut aussi apprendre à entendre le merci et à l'accepter.
Qu'est-ce qui se passe quand on a du mal à accepter les compliments comme ça?
Bah, tout d'un coup, on est au centre d'une attention, alors qu'on a passé sa vie à essayer d'y échapper. Et donc, voilà, ça ramène aussi au fait qu'on s'est pas trompé. Ouais. On est au bon endroit. Et c'est très émouvant en général.
Mm-hmm.
Voilà.
Comment on fait pour échapper au sentiment de pas mériter les compliments?
On n'y échappe pas. On s'y confronte et on dit, ah, tu vas pas recommencer aujourd'hui. On t'a dit merci, tu l'acceptes.
On accepte les compliments.
C'est ça, c'est un apprentissage.
C'est un autre message positif. On vous l'avait dit que Claire venait avec plein de messages positifs aujourd'hui. Bon, une façon de dire merci, ça peut être aussi en écoutant Enya, c'est le 3e morceau, May It Be.
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk along. Thank you.
qui chante May It Be, c'est la bande originale du Seigneur des Anneaux, il me semble, et c'est choisi par Claire Nudoukou cette semaine dans Haute Positive. Alors, pourquoi tu viens avec ce morceau, Claire?
Enya, une chanteuse que j'ai entendue il y a très longtemps quand j'étais petite en Alsace, au décours d'une séance chez un chiropracticien, je crois, où mes parents nous avaient amené. Donc je l'entends depuis très longtemps. Quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, j'ai voulu accoucher sans péridurale, y aller le plus librement possible. Ça a été un défi. Mais il a été relevé avec l'intégrale d'Enya dans mon petit MP3. Mm-hmm. Et cette chanson-là est une des dernières qu'elle a faites. En tout cas, c'est un des derniers albums que j'ai. Et je trouve qu'elle... quand on entend la musique au gré du film, on comprend que c'est une épreuve, c'est une traversée, c'est une quête. Et au moment où il y a du désespoir, elle est là pour dire que qui que tu sois, il y a un rayon de soleil, il y a quelque chose de positif à l'intérieur de toi, qui te permettra d'avancer. Pour moi, c'est vraiment la chanson de l'espoir.
D'accord, l'espoir dont on parlait tout à l'heure.
Voilà.
La boucle est bouclée.
C'est ça.
Claire, merci pour tes 4 grands messages positifs, plus tous les petits autres satellites que l'on va garder avec nous tout l'été. Alors, je les rappelle, cherchez qui vous êtes, partagez ce que vous vivez, osez être vous et dites merci. Claire, est-ce que tu as des coordonnées à nous donner pour que les personnes, les auditeurs qui ont envie d'en savoir plus sur toi, sur ton accompagnement, puissent te contacter tout simplement?
Oui, alors je communique beaucoup sur une page Facebook qui s'appelle l'atelier de MEGC. Mmh. On peut aussi la trouver à travers ma page perso où il est écrit tout simplement Claire Enudoukou, mon nom et mon prénom. Vous y trouverez à partir de là tous les liens nécessaires pour aller jeter un œil à un tout petit site internet que j'ai fait de mon côté. Et quoi qu'il en soit, à partir de cet endroit-là, vous trouverez un numéro de téléphone, des coordonnées, une adresse mail pour discuter.
Mmh. D'accord, ok. Et puis bien évidemment, on reprendra ces coordonnées des pages Facebook dans le podcast de l'émission. Merci beaucoup Claire, je te souhaite encore de belles aventures à la découverte de celle que tu es.
Merci beaucoup.
Et puis de beaux partages.
Oui, beaux partages et merci beaucoup Dorothée. C'est une expérience nouvelle pour moi, un petit peu stressante et finalement très agréable. Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi et chers auditeurs, hein, vous les avez entendus tous ces messages positifs. Alors essayez le plus possible de les mettre en pratique dans votre quotidien. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée dimanche à 20h et que vous pouvez la retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Vous avez tout l'été pour vous entraîner sur les messages positifs de cette saison passée. Je vous souhaite un bel été et puis on se retrouve à la rentrée. À très bientôt.
Que vous avez.
C'est FM.
L'esprit rock.